Bonsoir et bienvenue, Renouveau, dans En de Noir.
De nouveau, oui.
On coupera au montage, hein.
Voilà, oui, c'est ça. Donc, on a laissé un petit peu plus de musique que d'habitude parce que les deux livres dont on va vous parler maintenant font la part belle, tout au moins les éditeurs font la part belle à la musique. Le titre de ces éditions va vous éclairer tout de suite, c'est 13e note édition. Un petit peu, je vais vous parler 30 secondes de ces éditions. C'est la première fois qu'on parle de leurs romans. C'est bien dommage. Ils existent depuis 2009 et ils font un très très beau travail. C'est vrai que c'est pas une édition qui publie une collection polar affichée, mais leurs romans sont la plupart du temps aux marges du roman noir ou même complètement dans le roman noir. Et vous allez le comprendre tout de suite quand je vais vous citer un petit extrait de leur déclaration d'intention. Donc déjà, on a 13e note édition, auteur extrême sous haute tension. Et ils annoncent jazz, blues, country rock, punk. On trouve l'écho de ces musiques chez nos auteurs. Gueule cassée, couturée de références néo-beat ou pistoleros se réclamant de leur seule passion d'écrire. Donc là, on est quand même pas très loin de beaucoup de références polars. Alors, ça fait plusieurs années qu'ils existent. Plein de bons livres, en particulier des Williamsburgh, et ceux dont on va vous parler, une grande collection. Les deux dont on va vous parler sont d'une sortie d'une collection qui s'appelle Pulse, qui est une collection de poches très jolie, avec des très très belles couvertures. Donc ça peut vous faire des super cadeaux de Noël.
Et à 8 euros.
Voilà, 8 euros, 8,50 €. Et franchement, quand vous offrez ça, vous sauverez vraiment un joli bouquin. Donc, le premier roman dont je vais vous parler est un roman de Dan Fante. Le nom doit vous dire quelque chose. Ça s'appelle « La tête hors de l'eau ». La traduction est de Jean-Pierre Austin. J'espère que ça se dit comme ça. Et c'est dans cette fameuse collection Pulse. Pour 8,50 €, vous avez un petit bijou. Quand je vous disais que ce nom doit vous rappeler quelqu'un, Dan Fante, c'est le fils de John Fante. Ce roman, c'est le deuxième. Après « Rien dans les poches », qui avait déjà été réédité chez 13e note, je crois, il y a 1,5 ans, 2 ans. Et en gros, dans ces deux romans, Fante, Dan, pas le père, hein, se met en scène sous le nom de Bruno Dante. Si Bruno est un prénom bien commun, Dante, c'est franchement bien choisi si l'on considère les descentes aux enfers de son double littéraire. Car Fante, le fils, comme le père d'ailleurs, n'a pas besoin de chercher bien loin des personnages à la ramasse et des vies borderline, genre qui peut basculer à tout moment. Dans le premier roman, il avait entre autres décrit la fin terrible de son père. Son père était un diabétique sévère, comme on dit, et donc il a fini amputé des deux jambes. Et ça, c'était dans le premier roman. Dans le deuxième, Dan Fante, donc et son double littéraire, Bruno Dante, va affronter la chaleur de L.A., le lieu où ils habitent tous les deux, pour tenter de vendre des aspirateurs. Situation qui, évidemment, ne lui convient pas du tout. Boulot qu'il ne gardera pas bien longtemps. Il vit dans un foyer pour AA. J'ai oublié de dire que dans le précédent roman, il était en quelque sorte noyé dans l'alcool et que, au début de celui-là, il ne boit plus. Donc il peut être hébergé dans un foyer pour AA, je vous rappelle, ce sont les alcooliques anonymes. Et puisqu'il faut rester sobre, vous aurez compris qu'il va pas y rester longtemps non plus. Il recommence à travailler. Il a quand même la hargne quand même. Il va commencer un travail pour Eddie Kamedjian, un personnage très intéressant. Prototype de l'Américain qui s'en est sorti grâce au A. C'est un gagneur, un gagnant. Et évidemment, il fait profiter les autres. Il aide ou croit aider d'anciens alcooliques en leur donnant un boulot dans son entreprise. Alors, c'est une entreprise de vente par téléphone et ce qu'ils vendent, c'est des cartouches pour imprimantes. Mais en gros, la gagne, la hargne d'être le meilleur vendeur, les techniques commerciales utilisées, c'est vraiment très, très, très loin du caractère de Dante. Et donc, la seule personne de laquelle il va se rapprocher, c'est un personnage un peu comme lui. Et surtout, c'est une très très belle jeune femme, c'est la très belle Jimmy. Et évidemment, qui dit bonne femme à la ramasse comme lui, dit de nouveau des emmerdes. Il va se retrouver à nouveau dans la rue, évidemment à la tête de quelques dollars, ceux-ci vont passer très très rapidement dans des bouteilles de whisky et de vodka. Alors je voudrais vous lire maintenant un petit extrait quand Dan Fante parle de ses périodes d'alcoolique. Pardon, pas Dan Fante, mais Bruno Dante. On ne sait plus à la fin. Extrait. Vous dormez. Parfois, affolé, vous vous réveillez en sursaut au milieu de la nuit, sans savoir où vous êtes. Quand vous reprenez vos esprits, vous attrapez la bouteille qui est sur le plancher près du lit et vous buvez au goulot, 5-6 gorgées. Vous fumez une cigarette. Si vous avez bu assez de whisky, vous pouvez vous rendormir. Parfois. Au matin, vous émergez de votre torpeur et commencez à vomir. Mais il faut boire encore aussitôt pour arrêter la tremblote. Alors vous rebuvez et redégueulez. Parce que l'alcool ne veut pas rester dans votre estomac. Vous essayez de manger quelque chose pour vous calmer, n'importe quoi. Du parassis, des cornflakes à même le paquet, du beurre de cacahuète à la cuillère, n'importe quoi. Finalement, la nourriture reste dans votre estomac. Et ça va mieux. Et vous pouvez remettre ça. Le mieux, bien sûr, c'est de la vodka avec du jus d'orange ou du soda. Le tout bien froid. C'est toujours mieux quand c'est froid. Si vous n'avez pas de vodka, une bière. Mais il faut que ce soit froid. Si ça ne l'est pas, vous vomissez encore. Voilà comment ça se passe, si vous avez de l'argent. Si vous avez de l'argent, vous n'avez pas un souci au monde. Quelquefois, mes cuites duraient 10 jours, 2 semaines. Leur durée dépend de la quantité d'alcool que mon corps peut absorber. Quand vos chevilles et vos pieds restent engourdis toute la journée, il est temps de réduire la dose. Voilà, on va suivre Bruno Dante de crise de délirium tremens en torchage complet et le cycle infernal recommence. Camédian, le fameux gagneur de tout à l'heure, va une fois de plus tenter de le sortir de cette déchéance. Je vous laisse découvrir la suite. C'est un court roman, hein, il doit faire 180 pages, mais avec une densité étonnante. On dit toujours, plus ou moins, plutôt, c'est Sartre qui disait ça, l'enfer, c'est les autres. Pour Bruno Dante, l'enfer, c'est dans sa tête. La vie, elle est bancale, de toute façon. Les boulots, ça le déglingue complètement. Les femmes, en gros, majoritairement, ça a l'air d'être des salopes. En fait, surtout celles dont il tombe amoureux. Il reste quoi? Il reste l'écriture. Rédemption éventuelle. Ou bien, je dévoile un petit peu de la deuxième partie du roman, ou bien peut-être, peut-être un enfant. Dans une interview, Dan Fante raconte la partie de la vie qui a inspiré de ce roman. Évidemment, c'est inspiré de sa vie réelle, puisque c'est son double littéraire. Il puise ses mots, ses phrases, directement dans la noirceur de son existence. Et s'il a hérité de son père les démons qui pourrissent sa vie, il a, comme lui, un sacré talent pour raconter l'éternel combat du bien et du mal dans les cerveaux de nos pitoyables existences. Parce que quelque part, on partage pas mal de ces moments à la ramasse. Et il y a certaines scènes, en particulier de boulot, qui font poser pas mal de questions. Voilà, la tête hors de l'eau. Oui, j'ai... Non, est-ce que j'ai dit le traducteur? Oui, Jean-Pierre Austin, à 13e note édition. Jacques, un petit peu de musique
pour... Un petit peu de musique, ben, pour un peu introduire le roman dont on parlera après. Donc, c'est un morceau de Jefferson Airplane qui s'appelle Rejoice. Il est extrait de l'album After Bathing at Baxter's, qui est probablement le plus psychédélique des albums de Jefferson Airplane et qui a la réputation, probablement, d'avoir été quasiment entièrement composé sous l'influence du LSD, qui était assez courant à l'époque. Donc Rejoice, Jefferson Airplane. Chemical chain release. You've shot the warning. I'm alive. Let me see you moving everything over, smiling in my room, you know, you'll be inside of my mind. Thank you.
Sick on the holy dregs, and they're constant getting a throw up on his leg. Molly's gone to blazes, boiling scotch amazes. Any woman whose husband sleeps with his head all buried down at the foot of his bed. Mother's farm. War's good business, so give your son, and I'd rather have my country die for me.
Effectivement, ça a été écrit et chanté sous certaines substances.
Voilà, mais bon, la voix est tellement belle, donc on lui.
Voilà, parle. Alors ça va très bien pour La tête hors de l'eau de Dan Fante, mais ce morceau va très bien pour le livre dont tu vas nous parler, Jacques.
Oui, qui s'appelle Voyage au bout de la Blanche, donc déjà on comprend assez vite. C'est un roman de J.R. Elton, et donc qui est paru aussi dans la collection Pulse chez 13e Note. Et il est traduit par l'excellent Nicolas Richard, que nous avons eu en interview dans cette même émission il y a quelques temps.
Très bon traducteur.
Voilà, alors le titre original du roman, c'est Drugs. Drugs, donc en français, drogue. Et c'est effectivement de drogue qui va être question dans ce roman. La couverture originale, enfin du moins de la version américaine, c'est un magnifique dessin de Robert Crumb, qui est un copain de l'auteur. Mais là, en fait, il a écrit drugs en gros, donc il a fallu changer la couverture. Et là, ils ont mis.
Et aux États-Unis, c'était passé.
Oui. Bon, ah ouais. Ben oui. Bon, je pense pas qu'il en vende 300 millions non plus, hein. Et donc là, la couverture, c'est une dame, la photo en noir et blanc d'une dame un peu lascive. Et J.R. Elton affirme, avec quelques regrets, ne pas la connaître.
On dirait la Mara Desnuda.
Un petit peu. Voilà.
Et je prierai notre technicien, en entendant le mot « une dame un peu lascive », de se calmer.
Bon, il est derrière la vitre, donc c'est bon.
Tout va bien.
Donc,
Françoise, ne t'inquiète pas. Ça, c'est un message personnel.
J.R. Elton va nous raconter la vie de Jake. Alors Jake, malgré qu'il fasse un voyage au bout de la blanche, c'est pas franchement un junkie. Et je cite « Je suis né dans une famille blanche, typique de la classe moyenne, à Houston, Texas, en 1962. » Mes parents étaient des gens laborieux et respectueux des lois. Et lui, ben, il va commencer assez classiquement par la marijuana à l'adolescence.
Comment tu dis ?
La marijuana, la Marie-Jeanne, comme
il dit. Ah oui, l'herbe,
voilà. Et pendant les presque 50 années que dure le récit, il va tout prendre. Il va tout essayer. La coke, l'herbe, les champignons, l'ecstasy, l'alcool, la cigarette bien évidemment, les opiacés en tout genre, et même les médicaments, qu'on trouve sur Internet contre la douleur. Et tout ça, dans un quotidien presque raisonné. Il fait son boulot, tantôt dans le bâtiment, puis après il est prof à la fac, il fait des ateliers d'écriture. Un quotidien de drogué, mais sans jamais atteindre une véritable addiction. Il en parle à un moment, je vais vous lire un petit extrait pour dire exactement ce qu'il en dit. La toxicomanie n'existe pas. Cette appellation n'est qu'un jugement socialement conditionné, utile comme moyen de contrôle de la population par le classement et la régulation du comportement individuel. On note par exemple que personne ne traitera Winston Churchill ni Franklin Roosevelt, ils sont morts, mais de toxicomanes en raison de leur dépendance à la nicotine. Ben lui, c'est un peu, il estime que c'est pareil pour toutes les.
C'est un éternel débat puisque pour toutes les autres même en drogues. France, le tabac est une drogue légale.
Voilà. Donc il faut pas croire que ce roman n'est qu'un vague catalogue de la redoute des drogues consommables aux États-Unis à la fin du siècle dernier, le 20e, ou même que le personnage de J.R. Elton, donc Jake, serait un nouveau Bukowski. Pourtant, on y pense quand même beaucoup tout au long de la lecture de ce récit. Mais en fait, pas du tout. L'écriture est vive, précise, froide, sans affect, même dans les scènes de sexe ou de sevrage difficile. Son voyage au bout de la Blanche, en fait, nous fait partager les effets de ses produits sur son corps, son esprit, ses états d'âme, sa vie de tous les jours. Et sans jamais en faire ni de prosélytisme, bien évidemment. Il dit pas que c'est bien qu'il faut en prendre. Mais par contre, il ne cache pas aussi les bons côtés que ça peut avoir. Parce qu'évidemment, sinon, s'il n'y avait pas de bon côté, personne n'en prendrait, c'est bien connu. Le narrateur, lui, garde une très très grande lucidité, ce qui fait penser que si effectivement le personnage du narrateur est très proche de l'auteur, c'est quand même pas complètement lui, parce qu'il semble difficile, avec tout ce qu'il prend, de pouvoir raconter avec une telle précision tous les effets que ça fait, si j'ose dire.
C'est finalement presque un article scientifique.
Non, parce que ça, ça pourrait, mais c'est un vrai roman, parce qu'en fait, il raconte la vie de cet homme, et c'est aussi, en fait, une histoire des États-Unis. Et il nous raconte un peu que, en fait, pour lui, là, c'est une Amérique de camé, tout le monde est concerné. Au pire ou au mieux, on est accro à la télévision. Et par bien des aspects, la télévision, ça ressemble à une drogue en matière d'addiction et de lavage de cerveau. Il y a aussi un truc qui est
certainement la pire.
Certainement la pire. Il y a aussi une diatribe, enfin pas vraiment, mais les services de santé qui en fait et leurs complices, les grands groupes pharmaceutiques, qui aux États-Unis vendent de la drogue légale, mais qui n'en est pas moins aussi dangereuse.
Voilà. On va conclure maintenant.
Voilà. Oui. Donc il n'est pas étonnant que Jerry Stahl aime beaucoup J.R. Elton, car ceux qui ont vu son livre Permanent Midnight, se retrouveront un peu en lisant ce livre de J.R. Elton, traduit par Nicolas Richard, qui s'appelle « Voyage au bout de la Blanche ».
Voilà, et on va conclure en vous souhaitant d'aller chacun dans votre coin avec un bouquin. Et à très bientôt.
Au revoir.